Vous écoutez RTL. RTL dimanche soir, le MacPol.
Vincent Parisot.
Ouais, le MacPol, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Les Gilets jaunes entendent bien se mobiliser plus fortement en mars qu'ils ne l'ont fait hier, mais parallèlement, le grand débat s'organise et se met en place. Ce que les Français ont exprimé doit maintenant être compilé, analysé, classé, travail titanesque qui va se faire grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. On verra comment cela va se faire pour les quelques 320 000 contributions en ligne arrivées sur la plateforme du grand débat. On viendra sur la prestation de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle appelle notamment de ses voeux un deuxième acte plus social pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. On trouvera d'ailleurs ceux qui l'ont interrogé, Benjamin Sportouche d'RTL, Christophe Jacubizine de TF1 LCI et Yves Tréhard du Figaro. Nous tirons également le rideau sur le salon de l'agriculture où les politiques ont une nouvelle fois défilé. Tous les partis sont passés par le salon, tous sauf un, la France insoumise.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Et donc on commence comme chaque dimanche avec vous Olivier et on s'arrête sur un événement médiatico-politique. Emmanuel Macron entame ce soir sa campagne des européennes en accordant une interview à la RAI. La RAI, c'est la chaîne de télévision publique italienne.
Oui, alors il le fait tout simplement parce que la France et l'Italie sont des pays voisins, en principe des pays amis, et la France a une certaine indifférence, pour ne pas dire une certaine condescendance à se faire pardonner. Alors Emmanuel Macron a compris qu'attaquer les gouvernements dont il condamne les orientations, et c'est le cas avec le gouvernement italien, que les attaquer, ça vexe les électeurs de ces gouvernements qui se sentent dénigrés. Il va donc s'adresser aux Italiens pour leur dire que l'avenir est en Europe, une Europe solidaire, vers laquelle se tourne d'ailleurs Matteo Salvini, le nouveau patron politique italien, puisqu'il souhaite une répartition des immigrés dans l'ensemble de l'Union européenne. Et qu'au double, ça va permettre à Emmanuel Macron de souligner que les Italiens n'auraient rien à attendre d'une coalition avec Marine Le Pen qui refuserait d'accueillir les immigrés dont M. Salvini ne veut plus.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que tout au long de cette campagne des européennes, Emmanuel Macron va jouer cette carte, la carte de l'Europe solidaire, et du coup mettre un peu au second plan la bataille avec les nationalistes ?
Vous savez, pour convaincre un électorat que l'Europe est forte, mieux vaut lui présenter une perspective d'union que des bagarres sans fin. Et d'ailleurs, ce qu'il fait avec l'Italie, Emmanuel Macron a déjà commencé à le faire avec d'autres. Il a fait remettre la Légion d'honneur à une ministre de Viktor Orban, au prétexte qu'elle est francophile et francophone, mais enfin, on ne décerne pas la Légion d'honneur à tous les francophiles et francophones de la planète. Et puis, il a décidé également de se rendre en Pologne.
Oui, mais alors, cette Europe unie, peut-être idéalisée d'ailleurs par Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas un peu une figure de style, une promesse sans cesse renouvelée et qui n'a jamais été tenue?
C'est vrai que le méli-mélo de ces dernières années n'est pas très encourageant, mais sous la pression de Trump et des Chinois qui ont déclenché une guerre commerciale, les Allemands ont compris que la belle époque de l'export sans limite était terminée pour eux. Du coup, ils rejoignent les Français, mais aussi les Italiens, mais oui, les Italiens, pour que l'Europe hausse le ton, ne soit plus une passoire et exige la réciprocité dans les échanges commerciaux et que la Commission européenne facilite la naissance de géants européens de l'industrie capables de s'imposer sur la scène mondiale plutôt que de l'empêcher comme elle l'a fait récemment avec Alstom et Siemens. Il existe également une volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la défense pour que les Européens dépendent moins du bon vouloir américain. Voilà les thèmes concrets qu'Emmanuel Macron va décliner durant cette campagne pour tenter de convaincre que la souveraineté européenne dont il parle fréquemment ne se fait pas au détriment des nations, mais qu'au contraire, elle les renforce. Ça sera la question centrale au cœur du débat à l'occasion de ces élections européennes.
Merci Olivier Mazerolle. Évidemment, vous restez avec nous tout au long de ce MacPol, notamment pour réagir à ce qui va suivre, qui a trait au grand débat, à ce fameux grand débat. Vous savez qu'on a jusqu'au 15 mars pour y participer. Il y a les cahiers de doléances, les lettres, le courrier, et puis surtout, il y a Internet. La plateforme du grand débat a reçu à ce jour 320 000 contributions en ligne. Mais voilà, aujourd'hui se pose la question: qu'est-ce qu'on en fait? Comment traiter cette masse d'informations? Une partie des contributions sont des réponses à un questionnaire fermé, type QCM. Donc là, c'est assez simple. Mais beaucoup d'autres sont des questions ouvertes, où chacun a pu laisser aller sa plume.
Et puis, on peut dire qu'il y a autant d'avis que de Français.
Que de Français.
C'est-à-dire 65 ou 66, je ne sais plus, millions.
Alors maintenant, va falloir compiler tout ça, va falloir faire du tri et le mettre en forme. C'est passionnant, c'est un reportage signé Marie Mollet. C'est cela, Marie ?
Oui, c'est le défi numéro un de ce travail, la masse de données à traiter. Rendez-vous compte, d'après le journal Le Monde, ça fait 68 millions de mots à analyser. Pour vous donner une idée, c'est 45 fois la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et c'est tout simplement du jamais vu pour Frédéric Michaud, directeur du département opinion et politique d'Opinionway. Lui est chargé de la synthèse des contributions en ligne.
Là, on travaille beaucoup. D'abord, il est très rare d'avoir autant de questions ouvertes. On n'a jamais eu autant de participants à une consultation. Il aurait été impossible de traiter cette masse de données dans le laps de temps imparti en ayant recours uniquement à une codification classique.
Alors comprenez, sans intelligence artificielle, sans machine, c'était mission impossible, puisque c'est l'autre défi. L'Institut va devoir travailler sur ces milliers de contributions en un temps record. Le gouvernement leur a demandé de livrer leur synthèse en 2 semaines, ce qui est impossible sans le recours à un logiciel. Et c'est la société française Quam, basée à Paris, qui a été choisie.
Alors justement, Marie, dites-nous comment fonctionne ce logiciel ?
Alors il va lire tous les textes, vos contributions, va reconnaître, va comprendre des mots, des concepts, des nuances. Un logiciel déjà très perfectionné d'après Christophe Langevin, directeur général de Quam.
Augmentation du pouvoir d'achat, c'est un concept qui est dans nos référentiels. Transition écologique, bien sûr. Le point principal des logiciels d'analyse sémantique, c'est qu'ils vont comprendre, en lisant automatiquement, ils vont comprendre que Monsieur Intel est une personne, que hôpital c'est un concept de la santé, que maison de retraite aussi, que personnes âgées c'est un groupe de personnes, etc., etc. Et ça, sur à peu près tout le champ lexical du domaine du grand débat qui est très vaste.
Oui, donc on voit bien le fonctionnement, Marie, mais quand le logiciel ne comprend pas un mot, comment ça se passe ?
Eh bien, c'est l'humain qui prend le relais. Un analyste va enrichir le vocabulaire de la machine qui peut intégrer les nouveaux mots.
Imaginez un verbatim qui dirait « il est nécessaire de supprimer l'ISF ». Nous allons classer ce verbatim sous la grande catégorie ISF et dans la sous-catégorie supprimer l'ISF.
Et la conclusion, ce sera par exemple X% des gens qui ont participé au grand débat souhaitent la suppression de l'ISF, mais il reste un problème de taille. On peut prendre toutes les précautions possibles. Ces contributions sont anonymes, on ne sait pas si elles sont représentatives et le tableau sera forcément imparfait.
Merci beaucoup pour ces explications, Marie Mollet. Olivier Mazerolle, un commentaire et peut-être sur le dernier point que vient
bien sûr,
de souligner
c'est important, effectivement,
Marie.
On peut avoir plusieurs fois la même personne qui, à partir de sites différents, vient exprimer la même idée. Bon, il n'y a aucune perfection possible dans ce genre d'affaires.
Alors, mais il n'y a pas de pondération comme l'auraient fait les sociologues selon effectivement l'appartenance, la catégorie professionnelle.
Non, mais se manifeste qui il le veut. Bon, alors on peut contester le processus, mais enfin il a le mérite d'exister et finalement c'est quand même une grande innovation. Alors à partir de là, quand même, on voit bien quels sont quand même les grands secteurs qui passionnent les Français, c'est le pouvoir d'achat, la fiscalité et un peu en retrait quand même l'organisation du pays.
Oui, la démocratie, l'organisation démocratique.
Alors, à partir de là, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron se fait déjà une petite idée de ce qu'il va pouvoir annoncer à la mi-avril. Il a certainement l'intention, en tout cas il faudrait qu'il l'ait, d'annoncer un certain nombre de mesures qui frappent l'imagination, qui frappent les esprits, qui montrent et qui prouvent, ou qui tendraient à prouver qu'il a vraiment pris en compte ce qui a été dit. Et puis ensuite, il y a les questions de fond à traiter, c'est-à-dire effectivement l'organisation du pays, quel est le périmètre d'intervention de l'État, puis des collectivités territoriales, régions, départements et municipalités, et en même temps, revoir totalement la fiscalité pour savoir qui lève l'impôt et pourquoi et dans quelle direction et à quoi il sert. Et ça va prendre plusieurs mois.
Vaste programme. Hein.
Oui, et là, il faut qu'il y associe évidemment les parlementaires, mais aussi les collectivités territoriales.
Merci Olivier Mazerolle. On marque une courte pause dans ce MacPol et puis dans un instant, on revient sur le grand jury de Marlène Schiappa. À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.
Vincent Parisot.
Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, était donc à la mi-journée l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le journal au sujet des brigades anti-discrimination qu'elle pourrait tenter de mettre en place dans les entreprises. Mais évidemment, il a aussi été question de politique et d'orientation gouvernementale. Elle a expliqué qu'elle était favorable à, disons, un deuxième acte dans ce quinquennat Macron plus social.
Si nous avions, nous, au gouvernement, tout fait parfaitement, il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Il faut avoir l'humilité de constater que c'est parce qu'il y a des choses que nous avons peut-être partiellement manquées ou des choses que nous avons fait pas assez vite, pas assez bien, pas assez immédiatement qu'il y a eu ce mouvement.
Mais il y a une responsabilité du président de la République lui-même ou pas, puisque c'est lui qui est ciblé, qui est toujours visé par ces manifestants.
Je pense que là, ce qu'on observe, et moi vous savez que depuis le début du mouvement, j'ai rencontré vraiment beaucoup de Gilets jaunes, et ils sont assez nombreux à m'avoir dit qu'ils avaient voté pour Emmanuel Macron. Et quand je leur disais, mais alors pourquoi vous vous mobilisez maintenant? Pourquoi pas il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, puisque la situation était déjà difficile? Ils me disaient parce que là, on avait un espoir incroyable. On s'est dit, ce président va tout changer très rapidement. Et on voit qu'en fait, on paye maintenant des dizaines d'années d'inaction, de promesses politiques non tenues qui se cristallisent et qui émergent maintenant dans ce moment, parce que l'attente de changement, elle est très grande.
Justement, il y a des propositions qui émergent dans ce débat. Nous allons, Marlène Schiappa, en égrener 5. Pour ou contre, Marlène Schiappa, l'indexation des retraites sur l'inflation?
Je suis plutôt favorable à faire en sorte que les retraités puissent vivre plus dignement. Je pense qu'il doit y avoir une préoccupation et une attention portée aux personnes retraitées très forte. Et c'est ce que fait Jean-Paul Delevoye dans les travaux qu'il est en train de mener.
Continuons. Légalisation du cannabis, Marlène Schiappa?
Contre.
L'allongement du congé paternité?
Pour.
Limiter le salaire des élus et hauts fonctionnaires à 5 SMIC.
Pour la limitation des rémunérations des élus, mais pourquoi 5 SMIC et pas 4 ou 6? Je pense que dans les détails, ça mérite un petit débat.
Et enfin, rétablir l'ISF.
Moi, je crois que l'ISF, tout le monde s'accorde pour dire que ce n'était pas forcément un impôt qui rapportait énormément à l'économie au global, mais il y avait une valeur symbolique de l'ISF, c'est-à-dire que les gens qui se disaient, bon, quand même, moi, je paye beaucoup d'impôts, j'ai l'impression d'être surtaxé, mais il y a des gens très riches qui payent encore plus
donc
d'impôts.
Donc, vous êtes pour une mesure symbolique aussi.
Moi, je suis pour qu'on fasse en sorte que le consentement à l'impôt revienne. Et on voit qu'il y a des choses qui sont assez flagrantes. On a d'un côté, dans ce mouvement des Gilets jaunes, des gens qui sont opposés à l'impôt de façon peut-être globale, et de l'autre côté, qui participent massivement à des cagnottes, ce qui est une autre forme de redistribution et de solidarité, parce qu'ils nous disent, les cagnottes, c'est plus lisible. Ça veut dire qu'on a des gens qui font plus confiance à une start-up qui fait des cagnottes en ligne qu'à l'État. Et donc, effectivement, je crois que ce qui est important dans la fiscalité, c'est un, plus de lisibilité, et deux, qu'on ait le sentiment de plus de justice fiscale.
Alors justement, ce que vous dites sur le fait qu'il y a ce sentiment d'injustice, notamment fiscale, est-ce que ça veut dire qu'il faut que la deuxième partie du quinquennat, l'acte 2, comme on dit, soit un peu différent du premier? Est-ce que cet acte 2 doit être consacré justement à donner le sentiment aux Français que on les écoute davantage, qu'il y a une politique plus sociale? Est-ce qu'il faut changer de braquet?
Moi, je crois que ce n'est pas uniquement une question de sentiment, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait? Et le président de la République l'a dit dès le début, le programme, c'était libérer, protéger et unir. Donc, je crois que là, on a lancé un certain nombre de mesures de libération de l'économie qui montrent déjà d'ailleurs des premiers résultats de façon factuelle et tangible.
Maintenant, il faut protéger maintenant.
Absolument. Là, je crois qu'il faut qu'on mette, non pas qu'on ne l'ait pas fait jusque-là, parce que le plan pauvreté, par exemple, a lancé un certain nombre de mesures très importantes, mais je crois qu'il faut qu'on renforce cette partie sociale.
Et l'acte 2, vous nous dites aujourd'hui, devrait être social, plus social.
Protecteur.
Et plus protecteur.
Il
ne
m'appartient pas de déterminer la ligne globale du gouvernement. Mais effectivement, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, parce que là, honnêtement, les partis de gauche ne proposent vraiment pas grand-chose d'intéressant sur ce sujet-là. Je crois que justement, au gouvernement, on est nombreux et nombreux, dans le gouvernement d'Édouard Philippe, à être mobilisés pour faire en sorte d'aller plus loin dans les mesures de protection, maintenant qu'on a libéré. Mais je crois que c'était important de le faire dans cet ordre-là. On ne peut pas distribuer des richesses qui n'existent pas. Et je crois qu'il n'y a aucune justice fiscale et aucune justice sociale dans un pays qui serait un pays en ruine.
RTL dimanche soir.
Le Macpol.
Benjamin Sportouche d'RTL, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, Yves Tréhard, Le Figaro. Vous étiez donc avec Marlène Schiappa, invitée aujourd'hui du grand jury sur RTL, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. On lui prête beaucoup d'ambition politique. Elle est considérée comme à gauche, comme l'une des jambes gauches du gouvernement. Est-ce que ça s'est confirmé lors de son premier grand jury?
Clairement, là, elle appelle à un acte de social du quinquennat. Je ne pensais pas qu'elle le dirait aussi
protecteur,
clairement.
Elle dit protecteur.
Elle a même prononcé le mot social. J'ai même été interpellé parce que voilà, elle veut qu'on aille plus loin dans ces mesures d'accompagnement des Français. Elle estime visiblement qu'on a déjà fait beaucoup pour les entreprises. On n'a pas eu le temps de développer avec elle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On sait qu'elle a des réserves sur l'impôt sur la fortune, sur la suppression de l'ISF. Elle les a à nouveau émises. Donc voilà, on sent qu'il y a une jambe gauche. Alors elle ne va pas jusqu'à dire qu'il faut changer le Premier ministre pour l'incarner, mais franchement, on a senti qu'elle le pensait fortement quand même.
Christophe Jacubizine.
Oui, parce qu'elle est très maligne. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'en coulisses, en ce moment, il y a une guerre entre les deux camps. Hein. Effectivement, le camp des ex-droites, j'ai envie de dire, hein, Philippe, Le Maire, ouais. Darmanin. Mmh. Et puis ceux qui trouvent qu'effectivement, on a beaucoup libéré pendant la première partie du quinquennat, que maintenant, il faut protéger pour reprendre la devise de Emmanuel Macron. Et donc, elle a joué ce rôle-là. Effectivement, on peut en parler, mais sur l'ISF, sur plein de choses. Mais comme elle est très maligne, elle se dit, il ne faut pas que je sois trop caricatural, ni que je sois trop à gauche, parce que finalement, mes idées seraient balayées. D'ailleurs, elle fait la leçon à un de ses collègues, Aurélien Taché, qui sur le voile, le hijab, a eu des propos un peu malheureux. On voit bien qu'elle a bien conscience que pour compter davantage dans le quinquennat et avoir sans doute un poste ministériel plus gros, il ne faut pas qu'elle soit trop à gauche.
Mais elle parle quand même d'un sentiment d'injustice fiscale. Elle fait d'ailleurs référence au mouvement des Gilets jaunes à ce sujet quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'elle ne pousse jamais le bouchon jusqu'au bout.
Non.
Elle lance des pistes, elle lance des pistes qui sont embarrassantes probablement pour le Premier ministre et pour le Président de la République, parce qu'elles sont difficiles. C'est difficile de répondre à tout ça quand on sait qu'il n'y a pas d'argent, que l'État est endetté, qu'ils ne veulent pas revenir justement sur des marqueurs comme l'ISF, qui serait un constat d'échec vis-à-vis
un reniement par rapport à ce qu'elle a fait.
Mais elle fait, alors excusez-moi cette comparaison osée, elle fait en 2018 et 2019 ce que Françoise Giroud avait fait pendant le septennat, c'était un septennat de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, c'est-à-dire qu'elle pousse à gauche à fond et elle pousse à gauche avec toujours cette, évidemment, empreinte du féminisme qui est une grande cause. Et quand on veut faire avancer la cause féministe, à mon avis, on est obligé de parler social.
Mais elle va d'ailleurs assez loin sur ce terrain. Elle dit par exemple, le grand débat national, il est dominé par les hommes.
Oui, c'est vrai. Mais alors après, c'est pas faux. On a vu que dans la prise de parole, il y avait assez peu de femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que la semaine dernière, effectivement, à Pessac, il y avait un débat qui avait été organisé exclusivement avec des femmes. Alors là, on lui a posé la question. Et là, comme sur beaucoup de sujets, elle botte en touche. On lui dit, quand même, c'est un peu contradictoire. Vous dites qu'il faut que la République est une et indivisible et qu'il ne faut pas justement multiplier les communautarismes. Et là, vous acceptez que le président se rende dans un débat où les hommes étaient interdits, quand même. La lettre de la députée était assez claire dessus.
C'est une femme pleine de contradictions, quand même. Elle aime poser des débats, lancer des polémiques, mais on aboutit rarement à des solutions. Mmh. Et en même temps, c'est vrai, il faut bien reconnaître qu'elle porte ce sujet avec force. C'est l'une des femmes qui est le plus populaire, les plus connues, les membres du gouvernement les plus connus par les Français, alors qu'il y a certains qui sont complètement passés en dessous des radars, même les plus importants, que ce soit Mme Pénicaud, que ce soit Mme Belloubet à la justice. Elle est une femme politique d'avenir, et c'est pour ça aussi qu'elle ne va pas trop loin dans les prises
de position. Bien sûr, parce qu'elle a conscience qu'elle va jouer un rôle important dans la suite du quinquennat, que Emmanuel Macron en a besoin, et donc, comme elle est intelligente, elle se dit que c'est pas la peine non plus d'en faire trop, parce que ça va lui coûter la suite.
Puis elle a une liberté de parole qui est facilitée par ce rôle qui est un ministère, finalement, de la parole. Elle l'a dit elle-même, elle n'a pas de budget, quasiment pas. Toutes les décisions viennent de l'interministériel. Et donc, je dirais qu'elle, elle disserte, là où certaines de ses collègues femmes au gouvernement sont vraiment les deux mains dedans.
Donc, avec des vrais budgets.
Avec des vrais budgets et des vrais problèmes quand vous êtes à la santé, quand vous êtes à la
travail. Quand même, elle veut faire bouger certaines lignes quand elle pose la question des statistiques ethniques, qui est un peu un tabou en France.
Oui, mais là, comme tous les sujets,
elle ne va pas jusqu'au bout.
Elle pose des bonnes questions et elle refuse d'y répondre. Elle dit non, je suis pour dans le bouquin, mais en fait, non, je ne suis pas pour. En fait, ça serait intéressant, mais on peut pas le... Voilà, donc en fait, c'est un peu la limite de l'exercice de ce grand jury avec Marianne Chapin, c'est qu'on a eu plein de questions intéressantes qu'elle a posées, elle, mais pas vraiment de réponse.
Sur la laïcité, on l'a vu aussi, par exemple, quand elle dit qu'un élu ne devrait pas aller avec son écharpe tricolore dans une synagogue le jour du grand pardon. C'est un sujet, bon, et elle n'est pas allée plus loin, elle n'a même pas vraiment repris cette idée qu'elle exprime très clairement.
C'est assez courageux, ça, quand même, de dire, effectivement, c'est du clientélisme politique et ça nuit à l'unité de la République. Ça, pour le coup, c'est une proposition sur laquelle elle est assez ferme.
Benjamin Sportouche, RTL, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, Yves Fréard, Le Figaro, merci.
Merci. Merci.
Et Olivier Mazerolle d'RTL, évidemment. Je crois, Olivier, que vous avez surtout retenu ce que Marlène Schiappa a dit sur le port du foulard pour les musulmanes.
Oui, elle est revenue sur l'histoire de Décathlon et le hijab pour les sportives. Et donc, elle a expliqué finalement qu'il était souhaitable qu'une firme commerciale n'encourage pas au port de ce type de vêtements. Elle dit on ne peut pas l'interdire. Il n'y a pas de raison de l'interdire, ça serait même négatif en réalité, mais il faut bien savoir que c'est un vêtement qui a une signification très particulière. Il y a des femmes dans le monde qui ont été condamnées, poursuivies, condamnées, voire lapidées pour refuser de porter ce type de vêtements. Et quand d'autres font la comparaison avec des mini-jupes, par exemple, qui pourraient être dégradantes pour les femmes, elle dit, en revanche, là, ça relève de la liberté totale de la femme. On n'a jamais vu dans le monde une femme être lapidée pour avoir refusé de porter une mini-jupe ou pour avoir refusé de porter un serre-tête.
Mmh, et ça vous paraît effectivement très juste de souligner que tout ne se vaut pas.
Exactement.
Olivier Mazerolle, c'est l'heure de la clôture pour le Salon de l'agriculture. Son patron était d'ailleurs sur RTL dans le journal de 18h. Il a tiré le bilan avec nous, nous a donné le chiffre de fréquentation en légère baisse, 633 000 visiteurs, mais il a parlé d'un salon apaisé. Cela dit, pour les politiques qui, comme chaque année, ont arpenté les allées, la fréquentation là, a été très bonne. Hein. Seul Jean-Luc Mélenchon n'est pas venu, sinon tous les ténors sont passés par la porte de Versailles cette année encore. Et on vous fait revivre maintenant ces 9 journées au cours desquelles les politiques se sont invités dans la plus grande ferme de France, et notamment le premier d'entre eux qui y a passé dès le premier jour près de 14 heures. C'est un reportage sans commentaire signé Vincent de Rosier.
Emmanuel Macron, lui, s'est rendu au Salon de l'agriculture.
Et a battu son propre record en y passant plus de 14 heures. L'ambiance était plutôt détendue, pas de clash ou d'altercation à signaler.
Mais lâchez pas maintenant, c'est pas le moment.
Mais je suis pas du genre à lâcher, moi. Ah, okay. Donc on a fait les états généraux, la loi est passée.
C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça.
Je dis pas que le combat est réussi.
Hein. Elle
est désirée. Dans le parc, elle sera bien. J'adopte Désirée à l'Élysée. L'année dernière, j'avais adopté 2 poules, elles sont très bien encore. Hein.
Les agriculteurs sont plus que personne attachés à la protection de la planète. Parce qu'ils en vivent et parce qu'ils y vivent.
Oh, laissez-la tranquille, la pauvre. Oh non, vous n'avez pas fait que vous me bouquiez, lui taper dessus pour qu'elle se lève. Elle est comme moi, elle est sereine et tranquille.
Marine Le Pen, elle, était clairement en campagne contre le président de la République au Salon de l'agriculture.
Macron, c'est le chaos et la baisse des aides.
La présidente du Rassemblement National estime qu'Emmanuel Macron va alstomiser l'agriculture et qu'avec lui, c'est le chaos et la baisse des aides de la PAC.
Il n'a qu'une vision économique de l'agriculture. Alors c'est des courbes, des ratios, mais ça n'est pas que ça l'agriculture.
On a fait la loi pour que les prix justement soient maintenus. Là, je me bats pour l'Europe. Mettez la pression sur la filière avec moi, mais n'attendez pas tout du gouvernement. On est dans un pays qui s'est habitué à ce que le gouvernement fasse tout. Écoutez-moi jusqu'au bout.
Le combat, nous allons le mener au sein du Parlement européen. Moi, je me souviens, pendant la campagne présidentielle, on disait, vous allez voir avec Le Pen, ça va être le chaos et la baisse des aides de l'agriculture. Bon, bah, il se trouve que c'est Macron, c'est le chaos et la baisse des aides. Donc moi je suis désolé, mais je considère que l'argent des Français doit aller plutôt aux paysans qu'aux migrants.
Après la journée marathon d'Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe qui était au Salon de l'agriculture aujourd'hui. Le Premier ministre y retournera demain et après-demain.
Vous êtes très sympa et je vous respecte beaucoup.
C'est très gentil. Merci beaucoup.
Tout bien, tout est bon.
Je ne sais même pas qui c'est.
C'est le Premier ministre.
Mais de quoi ?
De la France. Bah, si c'est le Premier ministre.
Ah. La Fédération nationale des éleveurs de chèvres, donc on vous propose une dégustation des produits d'excellence de la filière caprine.
Formidable, merci.
Voilà. Il est resté moins longtemps que le président de la République, mais Laurent Wauquiez s'est posé en défenseur des agriculteurs aujourd'hui, Porte de Versailles.
Un petit coquin. Elle cherche des câlins. Elle est toute douce.
Oh, mais tu es trop mignonne.
L'agriculture, il ne faut pas uniquement la défendre quand on veut faire un gentil discours devant les agriculteurs.
Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus sensible à la maltraitance animal qu'un éleveur, parce qu'il vit avec ses bêtes.
Laurent Wauquiez était également en porte de Versailles à 3 mois des Européennes. Le patron des Républicains accuse Emmanuel Macron de mentir et de ne pas défendre l'agriculture française.
Le président de la République, quand il est au Salon de l'agriculture, fait une grande déclaration d'amour. Sauf que son gouvernement n'a pas défendu le budget de la PAC. Penser à l'agriculture, c'est pas juste rester pendant 12 heures au salon et puis rapidement oublier. C'est quelque chose d'un peu plus sérieux.
Voilà, et c'est la cloche, c'est l'heure de la cloche pour tout le monde, pour les vaches, pour les visiteurs, pour les exposants. Rideau sur ce salon qui s'est déroulé dans le calme. On parle d'un... On a le sentiment d'un apaisement quand même sur
oui,
le temps de l'agriculture.
Oui, il a quand même été plutôt bien accueilli, Emmanuel Macron. Ouais. Et on n'a pas entendu de sifflet, en tout cas. On ne peut pas interdire les sifflets dans un hall en permanence. Bon, voilà. Alors bon, maintenant, l'histoire du record, 14 heures. Bon, ben, l'an prochain, il dormira peut-être sur place. Et il pourra avoir une litière, peut-être. Et donc, il pourra relire le titre de François Mitterrand, La paille et le grain.
Voilà. Eh ben tiens, ça nous amène directement à l'agenda politique, Olivier Mazerolle, parce qu'il est question justement gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce sera mardi. Le chef de l'État va accorder un entretien aux grands journaux européens.
Enfin, ce sera une tribune.
Une tribune.
Qui va publier dans les journaux de pratiquement toutes les nations de l'Union européenne. Donc ça fera suite à ce qu'il fait ce soir sur la rail en Italie. Voilà, donc il va exprimer les grandes idées
qu'il
porte pour l'Europe.
Bah
oui,
parce
que vous savez, pour sauver le quinquennat, il a besoin de deux choses. Montrer une bonne issue au grand débat et aussi ne pas perdre les élections européennes, parce que sinon ça marquerait quand même durablement son quinquennat.
Alors bah, tiens, puisque vous parlez du grand débat, ça nous amène à vendredi. Là, on sera à l'approche fin du grand débat et les Gilets jaunes...
C'est le rush final.
Les Gilets jaunes
ont décidé, enfin certains d'entre eux en tout cas, de faire 3 jours d'action, vendredi, samedi, dimanche, à une semaine de la fin du grand débat. Tout ça pour marquer les esprits et indiquer qu'ils sont toujours bien présents.
Et mettre la pression forcément sur l'exécutif. Et puis jeudi, on attend une décision de justice qui devrait être largement commentée. Ce sera le délibéré du procès intenté au cardinal Barbarin ainsi qu'à plusieurs autres anciens membres de son diocèse pour non-dénonciation d'actes pédophiles. La justice va donc rendre son jugement.
Oui, alors là, c'est évidemment, ça sera commenté tout simplement parce qu'il y a eu la semaine dernière au Vatican une grande réunion des responsables cléricaux du monde entier réunis par le pape pour dire non définitivement à la demande du pape, en tout cas aux actes de pédophilie et surtout de dire non au silence des responsables de l'Église qui ont trop longtemps couvert les agissements des prêtres. Ben on va voir ce que la justice française dit concernant le cardinal Barbarin.
Merci Olivier Mazerolle. Allez, à suivre sur RTL les infos. Ensuite, les dessous de l'écran. Tiens, on va parler ce soir de l'Eurovision parce que ça tangue au pays de l'Eurovision. Et puis Autoradio, évidemment, comme chaque dimanche soir, avec Peugeot qui lorgne vers l'Amérique. A tout de suite.
Le MacPol, RTL dimanche soir. Vous écoutez RTL.